Audiolib présente Tresse de la mer émeraude de Brandon Sanderson, traduit de l'anglais par Sébastien Guillot, lu par Stéphane Ronchevski. Pour Émilie, qui peut compter sur tout mon amour. Première partie. Chapitre 1. La fille. Une fille vivait au beau milieu de l'océan, sur un rocher. Ledit océan n'avait pas grand-chose à voir avec celui que vous vous imaginez. Le rocher non plus ne ressemblait pas à ce que vous avez sans doute en tête. La fille, en revanche, était peut-être telle que vous l'imaginez, à supposer que vous l'imaginiez réfléchie, à la voix douce et aimant un peu trop collectionner les tasses. Les hommes la décrivaient souvent comme ayant des cheveux de la couleur des blés. D'autres évoquaient plutôt le caramel ou occasionnellement le miel. Elle se demandait pourquoi ils utilisaient si souvent des termes liés à la nourriture pour parler des attributs féminins. Il y avait une faim chez ces hommes qu'il lui semblait préférable d'éviter. À titre personnel, elle trouvait châtain suffisamment descriptif, même si la teinte de ses cheveux n'était pas leur caractéristique la plus intéressante. Elle-même aurait plutôt mis l'accent sur leur indiscipline. Chaque matin, elle les domptait héroïquement avec une brosse et un peigne, puis les muselait au moyen d'un ruban et d'une tresse bien serrée. Certaines mèches trouvaient pourtant toujours un moyen de s'échapper pour s'agiter librement dans le vent et saluer jovialement tous ceux que la jeune femme croisait. Elle avait reçu à sa naissance le patronyme malencontreux de Glorf. Pas de jugement, c'était un nom de famille. Mais ses cheveux indisciplinés lui valaient l'appellation que tout le monde lui connaissait. Tresse. Ce surnom était, à ses yeux, l'élément le plus intéressant de sa modeste personne. Tresse possédait un certain pragmatisme, inaliénable. C'est là un défaut courant chez ceux qui vivent sur des îles austères, apathiques, qu'ils ne peuvent jamais quitter. Quand vous accueille chaque jour un paysage de pierres noires, cela a tendance à influencer votre point de vue sur l'existence. Ladite île avait vaguement la forme d'un doigt crochu de vieillard qui aurait émergé de l'océan pour se tendre vers l'horizon. Elle était entièrement faite de pierres salées, aussi noires que stériles, et s'avérait assez grande pour accueillir une ville de taille raisonnable ainsi qu'un manoir ducal. Ses habitants l'appelaient « le rocher », mais sur les cartes, elle portait le nom d'îlot de Diggen. Plus personne ne se rappelait qui était ce Diggen, mais il avait manifestement été un homme intelligent ayant quitté le rocher peu après l'avoir baptisé, pour ne jamais revenir. Le soir, Tresse s'asseyait souvent devant la demeure familiale pour siroter du thé salé dans l'une de ses tasses préférées, tout en contemplant l'océan d'un vert profond. Oui, j'ai effectivement dit que l'océan était vert. Je pourrais même ajouter qu'il n'était pas liquide, mais nous y reviendrons. Au coucher du soleil, elle s'interrogeait sur les marins qui venaient faire escale sur le rocher. Non pas que quiconque un tant soit peu sain d'esprit puisse considérer le rocher comme une destination touristique. La pierre salée noire imprégnait toute chose et s'incrustait partout. Elle rendait également impossible la plupart des cultures et finissait immanquablement par contaminer toute terre importée d'ailleurs. La seule nourriture que produisait l'île provenait de cuves à compost. Si le rocher disposait de puits importants, qui tiraient l'eau d'une profonde nappe souterraine, ce dont profitaient les navires de passage, les équipements des mines de sel crachaient dans l'air un flot constant de fumée noire. En résumé, l'atmosphère était lugubre, le sol misérable et les panoramas déprimants. Oh, ai-je mentionné en plus les spores mortels ? L'îlot de Diggen se trouvait à proximité de la lunagrée verdoyante.